Avant de démarrer cet épisode, je voulais remercier notre premier sponsor qui permet de redonner vie à ce podcast, c'est Eymundo, une assurance en ligne de qualité que j'apprécie beaucoup parce que elle t'accompagne tout au long de ton voyage grâce à une application et un service d'assistance réactif. Ils sont disponibles par téléphone 24 heures sur 24 et surtout parce qu'avec cette assurance, il n'y a pas de petites lettres, ni de chichi, tout est simple, rapide et sans processus administratif interminable pour le remboursement. Et tu me connais, je déteste l'administratif, donc si tu pars bientôt en voyage, va faire un tour sur leur site Heymundo.fr, Heymundo.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour.
Regarde-moi ça!
J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ouh! Ça, c'est de la vie! Ah, c'est magique, ça!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Numéro.
Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène dans un pays où on n'est jamais allé. Je t'emmène en Turquie et je suis ravi parce qu'en plus, je t'emmène dans un pays où on n'est jamais allé et d'une façon, on n'y est jamais allé. C'est avec la bourse Zelija que je ne connaissais pas. Et quand Lucie m'a envoyé son petit message en me disant « Écoute, je suis parti faire un voyage de ouf. » grâce à une bourse que apparemment tu ne connais pas, Alex, faut absolument que je t'en parle. Et j'ai dit carrément… c'est parce que plus il y a de solutions pour partir voyager et mieux c'est. Je suis ravi de partager ça et c'est Lucie qui va nous raconter. Comment ça va, Lucie?
Ça va trop bien, et toi?
Écoute, ça va super. Alors déjà, on va mettre les choses à plat. Cette bourse Zelija, c'est un nom très stylé. Est-ce qu'on peut faire la personne cultivée? Est-ce que tu as été… Qui c'est Zelija? C'est quelqu'un? C'est quelque chose? Ou tu as été chercher?
Non, je sais. J'ai eu la petite histoire. On se transmet la petite histoire dans l'association.
Okay.
Zelija, en fait, c'est des mines au Maroc. C'est le nom de mine au Maroc parce que le gars qui a fondé cette organisation, qui s'appelait Jean Walter ou Walter, ça honnêtement, par contre, je ne connais pas la prononciation. Mais c'était lui-même un grand voyageur et d'où l'idée de la bourse. Et il a découvert les mines Zelija, donc… au Maroc, qui lui ont un peu permis de faire fortune, ou du moins de pouvoir en tout cas avoir assez pour financer ce projet de bourse. Donc c'est comme ça qu'il a fondé l'organisation et comme ça qu'il a trouvé le nom également. L'inspiration.
Ah, génial. Alors,
c'est au Maroc.
Il y a un aventurier qui tombe sur des mines au Maroc, le mec trouve des petites pépites de diamants d'or et tout ce qui va bien, il se dit attends. Je suis pas salaud quand même, j'aimerais bien autant. Je vais partager un petit peu. Et justement, qu'est-ce que c'est exactement cette bourse? Comment on peut l'avoir? Combien on a, etc. Pour que les jeunes qui nous regardent, parce que je crois qu'il faut être jeune, très jeune.
Tout à fait. Oh, je suis trop contente de pouvoir en parler parce que j'ai moi-même beaucoup écouté de podcasts de voyage et vraiment. Mais ça a commencé quand j'étais très jeune et ça m'a beaucoup inspirée pour mes projets. Et c'est beaucoup plus facile si tu peux entendre parler directement de ces moyens-là, de vraiment financer ton voyage et de partir. Du coup, la bourse Zelija, c'est un truc qui s'adresse aux gens qui ont entre 16 et 20 ans.
Ok.
Qui veulent partir en voyage et qui veulent partir seuls. Un des points essentiels de Zelija, c'est que tu pars seul en voyage pendant un mois minimum.
Ok, et ça va. C'est pas non plus. Si tu pars 8 mois seul en Sibérie. C'est ça, exactement. Et tu n'auras aucun contact avec les êtres autres.
Exactement. Tu dois chasser et pêcher toi-même. C'est facile, entre guillemets. C'est un mois, ce qui est quand même, en vrai, on peut en reparler. Un mois, ça peut changer beaucoup de choses quand même pour beaucoup de gens.
Mais 17 ans, tu m'étonnes.
C'est fou, ça change tout. Et en fait, donc tu dois partir seul, tu dois partir avec un projet en tête. C'est pas juste je vais, dans les Bahamas, chiller pendant un mois au soleil.
J'ai un petit projet en rêve d'homme très sympa pour pas faire mon bronzage. Je pense que ça va vous plaire. Non, ça passe pas.
Des UV. C'est pas, tu peux tenter, on verra. Il y a peu de chances que ça marche. En fait, tu dois avoir un projet qui va s'accomplir pendant au moins un mois dans la destination que tu veux et tu dois avoir un compte rendu en fait. Il y a plein de gens, les gens ont fait des choses absolument fantastiques, vraiment, mais en fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Moi,
Tu nous mets l'eau à la bouche. Il y a des jeunes qui ont fait des choses. C'est quoi qu'on t'a donné un peu comme exemple ou que t'as
Moi, en fait, je me rappelle la première fois que j'ai entendu parler de Zelija, je suis allée sur leur site et ils mettent des exemples de voyages réalisés. Et t'as une fille qui allait s'intéresser à sur la précarité menstruelle au Maroc. T'as des gens qui sont allés en Suède. Typiquement, aller en Suède et aller explorer différentes fermes ou différentes pratiques écologiques en Suède, c'est quelque chose qui s'est fait aussi. Aller au Népal, je me rappelle de quelqu'un qui avait étudié la prostitution au Chili. Ah ouais, c'est vraiment, okay. Les gens s'intéressent à des projets, mais des sujets incroyables. C'est fascinant. Et c'est, en fait, ça encourage, et surtout que c'est des gens hyper jeunes quand même, faut se le rappeler, mais ça encourage les gens à s'intéresser à des problématiques hyper spécifiques, ouais. Dans ouais. des endroits dans lesquels on n'en parle pas trop. Bien et sûr. C'est hyper intéressant. Et du coup, en fait, l'idée, c'est que tu as un projet que tu dois accomplir et tu dois rendre un compte-rendu après. En fait, il y a plusieurs trucs que tu dois rendre, si tu veux. La bourse est conditionnée à plusieurs choses. Et notamment, une fois que tu as fini ton voyage, tu dois, en fait, pendant tout ton voyage, tu as dû écrire un petit compte-rendu jour par jour. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant.
Mais tu fais ton petit compte-rendu tous les jours. En fait, tu relis ça après, t'es refait. Non, c'est
mais c'est super. Ça, ouais, c'est fascinant. T'imagines, toi, relire dans 20 ans ce que tu as fait quand tu avais 20 ans et que tu es parti je sais où. Enfin, c'est génial. Tu mets toutes tes émotions, si ça se passe bien, pas bien. Enfin, vraiment, tu livres tout. Et du coup, ça, tu dois le rendre. Tu dois rendre, si tu faisais, par exemple, parce que du coup, le projet peut prendre toutes les formes que tu veux, en fait. Il y a des gens qui font des reportages photographiques, qui vont faire des petites bandes dessinées.
Ah oui,
t'as des gens qui vont faire des choses audio ou des choses visuelles. Enfin, c'est vraiment chouette. Et du coup, en l'occurrence, quand tu fais un projet audiovisuel, ça aussi, tu dois le rendre... t'as un certain délai du coup qui est la fin de l'année parce que le voyage doit s'accomplir entre juillet et septembre.
Ah, donc c'est une certaine période.
C'est ça. Mais en fait,
c'est par rapport à la période étudiante aussi, j'imagine.
C'est ça aussi. Après, oui. Tout le monde peut le faire. Hein. Tu n'as pas besoin d'être étudiant, mais c'est aussi question de. En fait, tous les gens qui sont dans Zelidja sont des bénévoles. Du coup, pour eux aussi, tu vois, ils ont besoin d'un temps particulier pour pouvoir étudier les dossiers, parce qu'il y a un processus de sélection. En fait, il y a beaucoup de choses à expliquer à propos de cette bourse, mais tu dois déposer un dossier déjà qui motive ton projet. Je crois qu'il doit faire 8 pages à peu près. Tu expliques ce que tu veux faire, pourquoi, tu expliques un peu qui tu es, bien sûr, ton intérêt pour ce projet en particulier et comment tu vois le projet se réaliser, en fait. Et tu peux donner un itinéraire, tu dois donner un budget. Puisqu'en fait, la bourse, elle est graduelle. Ça va à 900 euros maximum pour ton premier voyage. Et comme on peut en faire deux avec Zedija, le deuxième voyage, c'est 1100 euros.
Ah, bien ouais,
donc, c'est évolutif.
En plus, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu me dis, c'est que finalement, tu vois, il vous invite, parce qu'il vous donne une bourse, à faire les choses qui sont finalement, je trouve, essentielles dans un voyage. C'est,
complètement.
C'est, en fait, il t'oblige à faire un truc qui est bon pour toi. C'est ça qui est très malin, c'est-à-dire faire un compte-rendu chaque jour. Hey, le nombre de choses que tu vas oublier, des leçons, quand tu les mets fraîchement, tu vois, le soir ou le matin, etc., c'est ultra puissant. Partir avec une quête spécifique et pas juste en train de butiner, la vie, elle est belle, etc., et avoir une investigation, avoir, tu sais, cette curiosité où tu vas aller vraiment dans un truc particulier, parce que bon, quand tu es dans un pays, il y a tellement de choses à voir et à faire, mais avoir cet angle-là, c'est archi malin.
C'est archi malin. Mais t'as tout compris. C'est ça qui est génial, en fait. C'est vraiment ce truc d'aller creuser dans ce que tu fais. C'est pas... En fait, ça t'amène à prendre une toute autre perspective sur les choses parce que, notamment, dans ton dossier de départ, tu dois expliquer la manière dont tu vas trouver des contacts dans le pays dans lequel tu vas. Donc, comme tu as un projet à mener, que ce soit un documentaire ou une exposition, tout ce que tu veux, une exposition photo, bah, tu dois trouver des gens qui vont t'aider à réaliser ton projet. Et du coup, tu vas creuser les choses tout de suite beaucoup plus vite. En fait, c'est pas juste tu chill, tu prends le temps et
puis. Je vais me balader et puis il y aura des gens, quoi.
Exactement. T'es obligé d'avoir des contacts avant, sinon c'est impossible. Et ils te demandent de rendre des comptes aussi là-dessus, ce qui est pour ça. C'est pour ça que c'est en fait assez bien encadré et que tout de suite, même si t'es très jeune, tu sais à peu près où tu vas. Tu dois dire tes contacts, tu dois donner ton budget, ton itinéraire, même si ça va bien sûr être amené à changer.
Forcément, plus t'as de chance d'être.
Bah, c'est ça, si t'as vraiment l'envie, tu vois, si l'envie est là, forcément, ça va t'aider à motiver ton projet.
Combien il y a de personnes par an?
Alors, c'est une très bonne question. Je sais que, en fait, la bourse, elle a été créée il y a longtemps. Mais donc, je crois que c'était dans les années 40. Et je sais qu'aux années où il y avait le plus de candidats, c'était à peu près 250 personnes par année. Là, pour cette année, je ne sais pas où on en est, mais c'est sûrement, ça doit graviter autour de la centaine. Je sais qu'en fait, il y a un jury par région aussi, tu sais. Donc, le jury qui va t'interviewer, entre guillemets, pour que tu présentes ton voyage, ça sera le jury de ta région. Et du coup, moi, c'était le jury de Normandie. Et je sais qu'en Normandie, on a été 4 à partir, c'était l'année dernière. C'était en... c'était l'année dernière, non, c'était en 2021. Oui, vas-y.
C'est ça. Justement, la Turquie. Pourquoi la Turquie? Pourquoi seule et en plus une blonde? Je t'avoue, forcément, tu vas attirer l'attention. Tu t'es pas dit. Enfin, t'es parti à quel âge?
Moi, non, moi, je suis partie. En fait, moi, c'est là la petite subtilité. Moi, j'étais même plus dans les critères d'âge parce que j'ai 21 ans.
Mais t'as fait une
aujourd'hui.
Fausse carte d'identité et t'as commencé direct
j'ai,
dans le dur.
Ouais, j'ai complètement trafiqué avec tous mes papiers. Ça a pris un processus assez long. Mais ça, c'est fait. Non, quand on veut, on peut. Mais en fait, si tu veux, il y a eu. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette histoire de pandémie qui a ravagé la planète à un moment.
Ça ne me dit rien.
C'est pas grave, mais tu te checkeras sur Internet. C'est quelques clics. Okay. En fait, moi, j'ai candidaté, on était en 2020, parce que du coup, en 2020, ouais. J'avais 20 ans. Et donc, j'étais dans la plage, 16-20 ans.
T'as
et j'ai candidaté.
Report,
c'est ça. On m'a dit, bon, c'est gentil, mais maintenant, parce qu'en fait, si tu veux, tu dois postuler avant. Moi, c'était décembre de l'année d'avant. Donc, décembre 2019, ouais. J'avais rendu mon dossier. Puis après, c'est quoi? C'est février, quelque chose comme ça. Tu te dis, ah c'est ouais, ça commence à sentir mauvais. Puis bon, on t'appelle, on te dit que ton dossier est accepté parce qu'en fait, tu passes un écrit déjà, les 10 pages, enfin les 8 pages de dossier. Si ton dossier plaît, ensuite, tu passes un oral. Et du coup, moi, j'avais passé l'oral avec un jury vraiment, vraiment très chouette où tu expliques ton projet. Et donc, ça a dû se faire en janvier. Et puis les résultats sont censés arriver vers mars. Donc mars, on m'a dit, bah, écoute, on te cache pas que ça va être compliqué un peu cette année.
Ça sent pas bon.
C'est ça. Tout le monde a été amené à reporter, ce qui fait qu'au final, moi, quand je suis partie, moi, j'avais toujours 20 ans puisque j'ai eu 21 ans hier, donc j'étais toujours dans les cases quand je suis partie parce que je suis de fin d'année. Merci. Mais du coup, je suis partie, j'avais 20 ans, donc j'étais pas si jeune que ça. Il y a des gens, ils partent, ils ont 16 ans, c'est vraiment hyper jeune. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre 16 et 20 ans.
Ça, c'est quand même puissant. C'est-à-dire que je sais que si tu peux voyager dans les pays étrangers, si tu as l'accord de ton tuteur, de tes tuteurs légaux, c'est-à-dire tes parents ou.
C'est ça.
Mais d'accord, ok.
Bah, y a tout un truc, en fait, si tu veux, pour les gens qui partent avant qu'ils aient 18 ans, déjà, ils accompagnent vraiment le processus de discussion avec les parents aussi.
C'est puissant, ça.
Ouais, tu vas sur le site, tu trouves plein de ressources qui s'adressent spécifiquement aux parents. Je sais que moi, ma mère, elle s'en est servie parce que ça a été compliqué.
franchement, moi, je te dis, premier voyage, enfin, c'était peut-être pas ton premier voyage, premier voyage solo en Turquie, franchement, je me dis, non, mais c'est sport. Je pense que voilà, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie parce que ce que j'en ai entendu en tant que femme, parce que moi, je suis déjà allé en Turquie, enfin, je suis allé à Istanbul, ouais, j'ai rien, mais t'es un bonhomme. Les femmes seules, en plus blondes, qui attirent l'attention, etc., tu peux être très souvent sollicité. Et je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais du coup, il faut de l'énergie, il faut du caractère, il faut savoir mettre les limites, il faut savoir s'assumer. Donc la question, c'est pourquoi tu choisis la Turquie?
Pourquoi j'ai choisi la Turquie?
Et après,
moi,
tu me diras
Turquie,
pourquoi toi ton thème, pardon, je te coupe, mais je me diras après pourquoi ton thème. Mais tu sais, il y a
plein de choses à dire.
Qui m'intéressent de fou.
Non, mais il y a beaucoup de perspectives à prendre en compte. Mais pourquoi la Turquie déjà? La Turquie, ça m'est venu très, très vite parce que j'ai entendu parler de Zelija. C'était donc en 2019. J'avais un petit travail d'été dans lequel je ne faisais pas grand-chose, donc j'avais beaucoup de temps pour faire des vagabondées sur Internet, chercher des choses.
Oh là là, on va très loin dans ces cas-là quand on était sans but précis.
Tu cherches.
Tu tapes, tu es sur Google Maps, tu vas sur des trucs. Ouais, voilà.
Et tu as plein d'idées, c'est génial. Et ma cousine, que j'aime beaucoup, m'avait parlé, qui est aussi vraiment dans ce délire de voyage et qui est encore plus jeune que moi, m'a parlé de Zelija parce qu'elle a cherché, tu sais, comment partir en voyage quand on est jeune et pauvre.
C'est ça. Putain, donc, c'est un bon article que je devrais faire.
Grave, ça aiderait beaucoup de gens. Et donc, elle a trouvé Zelija et elle m'en a parlé. Et du coup, moi, j'avais beaucoup de temps, je me suis renseignée et j'ai vu les conditions. Je me suis dit, écoute, un mois seul, je peux le faire. Ça m'enchanterait énormément. Et en fait, ma position de départ, c'était la France. Et je me suis dit, où est-ce que je pourrais aller qui serait pas trop loin, parce que je voulais pas que, en termes d'avion, je parte genre super loin pour un mois et que je revienne après. Enfin, tu vois, le bilan carbone est quand même vraiment... vraiment pas fou.
Super.
Du coup, je m'étais dit, qu'est-ce qui m'intéresse à peu près pas trop loin de la France. Ouais. Et là, mais fatalement, c'est vraiment ce que tu as dit tout à l'heure. J'étais sur Google Maps
la Turquie. Alors ça, je connais pas trop. Ça m'intéresse. Ça m'intrigue, ça.
C'est ça. Et la Turquie, ça m'est toujours venu parce qu'en fait, ma mère a eu la chance de voyager en Turquie, quoi, avec ma grand-mère. Donc en famille, ils sont partis en Turquie. C'était un voyage qu'ils ont fait en voiture avec mon grand-père. Ouais. Avec les chiens, les enfants et tout, enfin, un truc de malade. Et ce voyage, et j'en ai pas entendu parler énormément, mais le peu que j'ai entendu, ça me donnait trop envie. Et Istanbul, ça m'a toujours donné trop envie. Je me suis dit que Istanbul, ça avait l'air d'être une sorte de cité parfaite. Et voilà, enfin tout. Après, il y a plein de détails, mais tu sais, la nourriture, évidemment, le climat.
on n'en parle pas tant. En fait, on en parle de plus en plus de la Turquie parce que c'est toujours pareil. Hein, ça commence à être sous le feu des projecteurs des réseaux sociaux, notamment la Cappadoce, tu sais, notamment aussi, tu sais, où il y a les montgolfières, là, les levées de soleil avec toutes les montgolfières, etc., avec des spots assez emblématiques. Mais en vrai, la Turquie, c'est gigantesque. C'est un berceau de la civilisation.
C'est très diversifié.
Il y a des spots archéologiques qui sont incroyablissimes. Alors, en plus, je te dis ça, tout en n'y étant jamais allé hors Istanbul.
Mais rien qu'Istanbul,
c'est particulier. C'est quand même, ça a été une des... Enfin, tu vois, c'est Constantinople quand même, s'il te plaît. À un moment donné, ouais. Tu sais que tu ne mets pas le pied n'importe où.
C'est beaucoup trop stylé. Istanbul, c'est fascinant. Et en plus, et t'as tout à fait raison, à l'extérieur, c'est aussi tellement varié. Et moi-même, en fait, j'ai eu qu'un mois. En fait, dans mon planning à peu près, j'avais qu'un mois, donc j'ai fait pile un mois. Et ça a été trop court pour voir évidemment tout ce que la Turquie a à offrir, et j'y retournerai, c'est sûr. Enfin, j'ai vraiment, vraiment adoré. Mais tu te rends compte, en fait, quand tu y vas, toi déjà, t'imagines, tu sais à peu près qu'il y a la Cappadoce, qu'il y a Istanbul, qu'il y a, je sais pas, Izmir ou Antalya. Après, quand tu y vas, tu te rends compte qu'il y a encore beaucoup plus de choses à découvrir, et c'est tellement riche. Enfin, la Turquie, c'est vraiment un pays fascinant. Du coup, je savais que je voulais y aller de base, parce que ça me paraissait être un pays incroyable. Et après, rester à voir le sujet, en fait. Et moi, je suis très intéressée par tout ce qui est études de genre, tout ça. Je suis féministe, très intéressée par ces choses-là, mais aussi hyper intéressée par comment le patriarcat, puisque bon, la Turquie, c'est patriarcal, mais au final, tout est patriarcal, la France aussi. Je me demandais comment ça pouvait impacter les hommes aussi, tu vois. Parce qu'évidemment qu'on parle beaucoup des femmes, puisque les femmes subissent bien plus, enfin, sont bien plus les victimes, entre guillemets, du patriarcat que les hommes. Mais je pensais que ça avait un impact hyper négatif aussi sur les hommes. Et du coup, je me suis dit que ça serait hyper intéressant d'aller en Turquie, puisque du coup, la Turquie, c'est aussi patriarcale, et de voir, de parler avec des hommes là-bas, de comment le patriarcat peut avoir modelé leur enfance, leur adolescence, et comment ça a pu parfois les frustrer, les embêter, ou vraiment leur faire mal. Donc, c'était le sujet, c'était le voyage. Ouais.
Alors, attends, des questions. Déjà, tu poses le pied à Istanbul, c'est ça?
Ouais. C'est génial.
Dresse-nous le décor avant qu'on rentre dans l'enquête.
Si tu veux, c'est fou parce que j'ai eu la chance, tu me demandais si c'était mon premier voyage, j'ai eu la chance de vivre en Corée juste avant de partir en Turquie. J'étais en année d'échange en Corée du Sud.
Rien à voir.
Quoique si, les Coréens me disaient beaucoup que les Turcs sont leurs frères de cœur parce qu'ils sont beaucoup épaulés. Ah ouais. même réaction de ma part. J'en avais aucune idée. Mais les Turcs ont énormément aidé les Coréens pendant la guerre. Oui, pendant la guerre de Corée, les Turcs sont allés beaucoup aider. Et les Coréens ont rendu l'appareil quand il y a eu une catastrophe naturelle en Turquie. Il y a eu un écroulement de plein de bâtiments. Okay. Et les Coréens sont allés aider aussi. En fait, il y a eu une sorte d'aide mutuelle des deux pays. Donc, les Coréens me disaient « Ah, mais les Turcs, c'est nos frères de cœur. » Et quand je suis allée en Turquie, les Turcs me disaient « Ah oui, mais les Coréens, c'est vraiment… Enfin, » Du coup, c'est pas si éloigné.
Bien comme finalement. Ça, on n'est pas au courant, quoi. C'est…
J'en avais aucune idée, mais hyper intéressant.
Et alors, du coup, t'es à Istanbul. C'est quoi les premières impressions? Comment tu te sens? Raconte-nous.
Ça m'a fait Istanbul, c'est tellement vivant. C'est sublime. Déjà, c'est tellement diversifié. Tu vois un panel d'humains au mètre carré qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai vu dans ma vie. Bien sûr, il y a des gens diversifiés un peu partout, mais Istanbul, il y a des gens de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les manières de s'habiller. C'est magnifique, les gens vont partout. Moi, je viens de Corée où c'est quand même très réglé. Dans la rue, tu vois, si le petit bonhomme est rouge, le bonhomme est rouge et tu ne passes pas, même s'il n'y a pas de voiture à l'horizon. Et j'arrive à Istanbul et je me rappelle surtout du choc que ça a été quand j'arrivais dans le quartier vraiment très fréquenté où il y a Hagia Sophia, où il y a le palais Topkapı, et tu descends vers le Bosphore. Et je me rappelle, c'est vraiment une sorte d'image que j'ai dans ma tête parce qu'en plus, ce jour-là, il y avait le coucher de soleil, tout ça, c'était magnifique. Et tu vois des gens partout qui passent, mais tu sais, vraiment très daltonien, hein, que ce soit rouge, que ce soit vert, ils passent, c'est tout, les voitures s'adaptent. C'est vraiment génial. Et tout le monde passe partout, les gens parlent très fort. Moi, j'avais l'impression qu'ils se parfumaient beaucoup parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'odeurs un peu sucrées. Puis tu as tous les stands de gens qui vendent les beignets, les épices, tout est les loukoums, et tu vois le Bosphore au loin, tu vois les mouettes partout, les oiseaux qui sont nourris aussi. Et tu te dis, mais cette ville est incroyable. En fait, c'est à quel point c'était vivant qui m'a fasciné.
C'est une marée humaine.
Ça passait partout, ça parlait de toutes les langues, parce que évidemment que tu entends le turc, mais tu entends beaucoup l'arabe aussi. Et c'était, mais c'est magnifique. Enfin, gros coup de cœur dès le début, en fait. Parce ouais. que moi, quand je suis arrivée à Istanbul pour la première fois, j'étais un peu sonnée quand je suis descendue de l'avion. J'étais là, bon, OK, la Corée, c'était génial. J'ai dit au revoir et c'était un peu brutal. Maintenant, je suis en Turquie. Qu'est-ce que je fais? Et je suis restée un peu dans l'aéroport à rassembler mes pensées. Je suis sortie. Et en plus, je suis un peu débile. Mais je voulais sortir pour goûter la température. Tu vois. Je voulais sortir, voir alors qu'est-ce que ça fait d'être à Istanbul. Et du coup, je prends ma valise, tout ça. Je sors. Et une fois que je sors, il fait super beau. Je suis à Istanbul. Je suis trop heureuse. Le climat est très doux. Et je veux re-rentrer parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas faites, notamment retirer du cash, tu vois, ou alors prendre un plan de la ville pour savoir où je suis, prendre une carte SIM pour avoir Internet. Et quand je veux rentrer, on me dit bah non, vous ne rentrez pas.
Ben, t'as pas de
billet. Vous êtes sorti, c'est trop tard.
Pas de bras, pas de chocolat.
Exact. Donc, j'étais là, ok, super. Donc, en fait, moi, j'avais juste un papier. Enfin, j'avais pris un screenshot de l'endroit où je devais aller. Puisque pendant mon voyage en Turquie, j'avais que du couchsurfing. Donc, j'ai super. Dormi chez des gens tout le temps. Et la première personne chez laquelle je devais me rendre, j'avais son adresse sur Google Maps. Enfin, même pas son adresse, juste c'était écrit, tu vois. C'était même pas l'itinéraire sur Google Maps. Donc, je l'ai écrit sur un papier. Et je vais le donner à un monsieur qui travaillait. Tu sais, il y avait plein de compagnies de bus. Donc, on est juste devant l'aéroport. Et je lui demande comment est-ce que je peux me rendre là-bas. Et il parlait très mal anglais. Moi, je ne parlais pas du tout turc. Donc, il écrit juste quelque chose sur un papier. Il me dit, va voir les gens là-bas et va leur montrer. Donc, je vais voir une compagnie de bus. Je leur montre. Ils me disent, OK, c'est bon. Et par chance, je pouvais payer par carte, tu vois, parce que c'est un gros bus en sortant de l'aéroport qui m'amène quelque part. Et en fait, ma toute première impression de la Turquie, ça a été le moment où je descends. Il y a le chauffeur qui me dit, toi, descends là. Parce qu'il savait sur mon petit papier, tu vois, moi, j'étais vraiment perdue. Hein. J'avais ma grosse valise, mon gros sac. J'arrivais pas à m'installer dans le bus. Enfin, je prenais 3000 ans à m'asseoir. J'étais toute rouge, j'avais chaud, c'était horrible. Et je m'assieds, j'attends. Je savais même pas où j'allais. Et j'avais pas Internet ou quoi que ce soit. Et à un moment, le chauffeur me dit, bon, vas-y, descends. Et on est sur une très grande route, enfin une route, je ne sais pas, deux ou trois voies, avec dans l'autre sens deux ou trois voies également. Ouais. Et il y a juste un arrêt de bus. Et on voit par contre, on voit une vue, on est un peu en hauteur. Donc, on voit Istanbul qui s'étale, mais très, très loin. On voit, tu vois, c'est vert, c'est beau. Les bâtiments, tu vois des mosquées partout. Et les mosquées, quand même, en termes d'architecture, c'est vraiment magnifique.
Ouais.
Et tu vois tout ça au loin. J'étais là, waouh, c'est ça Istanbul. Et c'est immense, ça avait l'air immense. Et c'était fascinant. Moi, je n'avais aucune idée d'où je devais aller. J'avais juste mon papier. Donc, je retourne voir quelqu'un qui avait l'air de travailler pour les bus. Et je lui dis, écoutez-moi, écoutez, je dois aller là. Et le monsieur me dit, bah oui, bah, il vous faut une carte de transport. Je dis, OK, je peux payer par carte. Il me fait, bah non, uniquement par cash. Je dis, yes.
Yes, ça commence
c'est le
bien.
Début.
Super, je suis en plein milieu d'autoroute, ça va être top.
Ouais, c'est ça, j'étais là, OK, ça va être chouette. J'avais une immense valise parce que je veux dire que du coup, ma valise, elle ramène quand même un an de vie en Corée. Tu vois, je ne l'ai pas joué minimaliste.
Ah,
je
mais
pas
attends,
juste en sac à dos.
J'avais pas capté. T'as même pas fait de stop en France.
Non, je voulais aussi, pareil, minimiser un peu l'avion, tu vois, en mode
super.
Je décorais, je reviens en Turquie.
Et t'as maximisé les valises, du coup.
Ah ouais. J'ai voulu essayer. Ouais, bah alors, j'ai une valise qui est énorme, elle fait 30 kilos, c'est vraiment très lourd. Et je suis perdue
c'est
avec ma valise.
C'est très, très lourd, 30 kilos.
Ouais, je suis rouge, mais comme ma valise, vraiment, et j'attends, je suis là pour... Je ne savais pas quoi faire, vraiment. Et donc, je ne peux pas prendre le bus, puisqu'a priori... Enfin, c'était même pas un bus, c'était un tramway, en l'occurrence. Je n'avais pas la carte de transport. Et donc, j'attends. Et puis, au final, je redemande. Je lui dis, mais du coup, comment je fais? Il fait, bah, sinon, vous pouvez prendre les minibus. Ça s'appelle des dolmouches. Et c'est des sortes de bus taxi. Des vraiment toutes petites navettes où tu rentres, on rentre à plein. Et en fait, tu descends quand tu veux. Il n'y a pas de stop défini. C'est toi qui dis, oh, je descends là. Donc, il faut quand même bien connaître l'itinéraire. Et il me dit, bon, allez prendre ça. Sauf qu'en fait, pour prendre ça, il faut traverser la route, donc les quatre voies. Et pour les traverser, il faut prendre un pont.
Ouais, avec les escaliers
avec
de ouf. Là.
Avec les escaliers
oh
voilà, de ouf qui traversent tout. Et j'étais là, putain. Et du coup, je m'avance vers là-bas. Et franchement, j'ai trop chaud. J'ai vraiment trop chaud. J'avais hyper soif. J'avais vraiment rien pris en dehors de l'aéroport. Et j'avance. Et il y a tout de suite un mec qui arrive qui est là. Mais non, mais t'inquiète, je vais t'aider. Il était hyper sympa. Et c'était trop rigolo parce qu'il parlait vraiment que turc et pas anglais. Mais du coup, il me parlait en turc. Il me disait vraiment beaucoup de choses. Et je comprenais vite fait ce qu'il me disait. Quand il me disait d'où est-ce que tu viens, je comprenais à peu près. J'étais là, je viens de France. Il disait, ah, tu viens de France. Et puis il disait plein d'autres trucs d'un air très enjoué en turc que je comprenais pas. Mais le monsieur, trop sympa. Et il me dit, tu vas où? Je lui montre le papier. On me dit, OK. Il prend ma valise, il monte tous les escaliers, il m'aide à traverser. Il interpelle un chauffeur de bus et il lui dit, oui, est-ce que tu vas là? Donc le monsieur dit non. Donc il va demander un autre bus et le bus m'emmène là où j'ai besoin. Et c'est le mec qui paye pour moi. Il me dit,
ce que j'allais dire, t'avais pas de cash. Parce que c'était mignon avec ton histoire de minibus.
J'étais vraiment, mais la petite blanche idiote complètement perdue comme ça au milieu de l'autoroute. Là, bon, j'ai rien du tout. Le mec paye pour mon trajet. Il me dit, t'inquiète pas, il s'arrêtera quand tu veux. Et dans le bus, les gens tiennent ma valise pour pas qu'elle bouge. Il y a une dame qui se déplace pour que je m'asseye et tout, parce que franchement, je devais avoir l'air mais au bout de ma vie. Et les gens, trop charmants. Et je pense que c'est ça exactement l'impression première que j'ai eue d'Istanbul, c'est mais les gens sont trop gentils. Tout le monde m'a souri, m'a aidé. Le chauffeur, à un moment, il s'arrête, il me dit « voilà, tu descends là ». Et en fait, il s'avère que c'était exactement en face de l'appartement du mec chez qui j'allais. Et j'étais là « waouh, trop fort, sans internet, sans rien, c'est génial ».
À l'ancienne, voilà.
Exactement. Mais ça marche au final avec les gens. Mais c'est vrai que c'est un endroit, et ça s'est confirmé par la suite, c'est Istanbul et la Turquie de manière générale, où les gens étaient hyper, hyper accueillants. Donc, c'était vraiment la première impression.
C'est génial. Tu sais, cette aventure-là, donc bon, là, c'est vrai que c'est con, tu fais le pas de trop, bam, tu sais, ça se repère derrière toi. Eh ben non, c'est trop tard. Tu n'achèteras pas de carte SIM, tu ne retireras pas de cash, et tu ne prendras pas de plan.
C'est fini.
Maintenant, c'est Pékin Express avec une valise de 30 kilos.
Exactement.
Et en vrai, évidemment, ça fait peur de voyager comme ça, de se dire, je ne sais pas comment je vais y aller, je ne sais pas combien de temps je vais attendre, je ne sais pas, j'ai rien. Et en fait, tous ceux qui l'ont vécu, et je l'ai déjà vécu plusieurs fois, et enfin, tous ceux qui ont voyagé il y a plus de 10 ans, on va dire, avant que Internet se répande partout et que tu l'aies en permanence sur toi, c'était ça le voyage en fait. C'était un sondage permanent où tu dis, on n'a pas le choix, de toute façon, il faut qu'on trouve. Parce qu'il faut que je dorme, il faut que je mange, il faut que je me bouge, etc.
Exactement.
Et en fait, aujourd'hui, tu as le luxe. Et même moi, quand je voyage, surtout que c'est bon, j'ai poncé la planète, si tu veux, je m'achète une carte SIM, etc. et trucs, surtout que maintenant, je bosse aussi beaucoup quand je voyage. Mais quand tu as le temps, et que tu es là pour voyager, tu es là pour découvrir. Mais tu sais quoi? Range ton téléphone dans ton sac en cas d'emergency et vis à l'ancienne et tu vas t'apercevoir en fait que si tu voyages, c'est pour vivre des choses fantastiques et tu regardes partout sur Internet, c'est bien les spots, mais si tu veux vivre vraiment des choses fantastiques, fous-toi dans la merde. Fous-toi dans la merde. Et en fait, la façon dont tu vas t'en sortir, parce que tu t'en sortiras toujours, c'est ça le voyage en fait. C'est te sortir de la merde dans laquelle tu vas te mettre. Et en vrai, tu t'en sors toujours. Et plus tu vas être dans la merde, plus l'aventure, elle va être fantastique. Évidemment, il faut faire attention, il faut respecter les règles de base. Je ne dis pas non plus, alors, je vais dans une favela avec une chaîne en or, ça va être génial, là, j'ai dans une belle merde. Non, 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 ce n'est pas ça, en fait. C'est pars à l'inconnu. N'est pas la réponse. Et le but du voyage, c'est de découvrir la réponse. Et c'est ça qui est...
C'est ça.
C'est ça qui est
c'est
puissant.
Pas, ouais, en fait, c'est exactement ça. C'est pas chercher la merde, c'est juste éviter toutes les facilités que peuvent apporter Internet.
Exactement. Évite la facilité. Parce qu'en vrai, c'est ça. Enfin, la vie, c'est toujours pareil. C'est plus tu vas dans la facilité, plus tu vis la même vie que tout le monde. Plus tu vis un truc aseptisé. Si tu veux un truc puissant, ce qui est normalement le cas quand tu es censé partir voyager, c'est que tu veux vivre un truc qui te fait pétiller, qui te fait peur, qui te fait vibrer, qui te fait grandir. Tu sais quoi? Laisse ton port. Hey, fais comme Lucie.
Passe les poids.
Prends ta valoche, prends aucune info, pose ton portable et prends pas de puce et tout et fonce.
On donne des ordres maintenant, voilà, c'est un podcast hyper agressif.
Exactement, parce que nous, on n'est pas là pour... Parce qu'on est dans la masculinité. D'ailleurs, on en revient à cette masculinité. Apparemment, moi, j'étais dans un état patriarcal qui a totalement dépeint sur moi. Comment tu fais pour aller traiter ce sujet-là? Salut, t'es une petite blonde française qui va aller parler à des, entre guillemets, je vais prendre exprès l'image caricaturale, mais le macho, le mec patriarcal turc, bon, ça pourrait être pareil en France, tu vas lui poser des questions. Qui tu vas voir? Comment tu fais les choses? Comment tu amènes les choses? Et surtout, qu'est-ce que t'as eu quoi comme réponse?
Alors, des réponses, j'en ai eu, mais tellement variées, des très positives et très négatives de mon point de vue, évidemment. Mais en fait, comment j'ai fait, c'est que tu dois donc trouver des contacts avant de partir. Et moi, ma grosse base de contacts, ça a été Couchsurfing. Mais vraiment de fou. C'est un peu la seule chose que je connaissais avant de partir. J'avais déjà un peu voyagé, j'avais déjà fait du Couchsurfing. Donc, je savais que la communauté était extrêmement bienveillante. Donc, j'envoyais plein de messages quand j'étais en Corée en disant « Salut, je vais faire un documentaire sur la masculinité. Est-ce que tu veux bien m'aider ?» Et j'envoyais des messages à tout le monde. Et en fait, les gens, et ça, mais j'ai compris, en fait, il y a le côté couchsurfing où les gens sont hyper accueillants, hyper prêts à t'aider et tout. Mais il y a aussi ça, vraiment, en Turquie, c'est puissance 10. Les gens sont fascinants de volonté de vouloir t'aider.
Ah,
et
ouais,
du coup, je suis tombée sur plein de gens qui étaient là. Ah, mais grave, projet hyper intéressant. Bah écoute, je connais tel copain qui penserait plutôt comme ça, blablabla, est-ce que tu veux le rencontrer et tout.
Et en fait, du coup, les premières personnes que j'ai rencontrées, c'est des personnes qui m'ont accueilli chez elles déjà, ce qui est quand même vraiment sympa, qui en plus m'ont présenté à d'autres gens pour que je fasse des petites interviews. Donc en fait, si tu veux, au début, je n'ai pas été confrontée à un truc hyper patriarcal, hyper masculiniste, parce que la communauté d'où je venais était déjà hyper bienveillante,
bien
ouverte
sûr
d'esprit. Enfin, c'était couchsurfing, tu vois. Donc les gens étaient là, je comprends le problème, la masculinité c'est toxique. Et du coup, c'était hyper intéressant. Mais après, plus tard, j'ai eu notamment une interview, parce que j'en ai pas fait tant que ça, je vais en faire moins de 10, je pense, mais j'ai eu une interview avec le père de quelqu'un, le père d'un mec de couchsurfing, qui s'est révélé être vraiment, c'était lourd, c'était long, c'était vraiment long. Mais la plupart
mais
des.
Quoi, qu'est-ce que tu appelles c'était lourd, c'était long
En fait, si tu veux, on parle d'un gars qui donc le gars que j'ai rencontré sur couchsurfing, qui s'appelait Tala, me dit écoute, ça tombe bien que tu parles de ce sujet parce que mon père est hyper intéressé par les questions de genre. Et Tala, il avait 30 ans. Donc, j'étais OK, son père, il a genre 60 piges. C'est fou à 60 piges d'être intéressé par les questions de genre. Tu vois, j'étais là, c'est hyper intéressant le point de vue que je vais avoir. Et je m'attendais à avoir un point de vue extrêmement ouvert pour son âge. Et en fait, quand je suis arrivée, mais par ailleurs, c'était des gens vraiment très sympathiques. Ils m'accueillent chez eux. Et ça, c'était à Ankara. C'était pas à Istanbul, c'était dans la capitale. Et ils m'accueillent chez eux. Et donc, le père me dit « Ah, mais ça tombe bien que tu sois là, j'adore ces questions-là. Viens dans ma bibliothèque, j'ai quelques livres à te montrer. » Et là, il montre que des livres qui t'expliquent avec des vieilles thèses, des vieilles études qui sont plus datées d'ailleurs, sur l'étude du cerveau, à quel point le cerveau des femmes et des hommes est construit différemment. Et ça justifie toute une thèse de les cantonner aux champs pour lesquels on les a cantonnés pendant des années, tu vois, qui est la femme, naturellement, elle va s'occuper de l'autre, naturellement, elle est faite pour avoir des enfants, naturellement, elle va vouloir s'occuper de l'homme, et l'homme, lui, naturellement, est plus, un peu plus fou, un peu plus aventurier, et tout ça. Et j'étais là, non, quel dommage. Je croyais vraiment avoir un truc un peu
mais
ouvert.
Est-ce que c'est pas ça, finalement, le principe d'un reportage? C'est chiant de faire un reportage où tout le monde pense comme toi et surtout pense comme l'investigateur. Ce qui est sympa, c'est d'aller confronter ses idées. C'est que même des idées qui sont à l'opposé de toi vont toi te permettre d'aller te creuser la tête pour étayer ta thèse. Et si tu veux étayer une thèse, si tu es juste « Ah bah c'est génial, on est tous d'accord. » Donc j'imagine que sur le moment, ça ne va pas être très agréable, mais en vrai, c'est super.
C'est nécessaire. Mais surtout que l'idée, en fait, c'était effectivement de brosser un portrait de la Turquie qui est à minima un petit peu réaliste quand même. Et du coup, il n'y a évidemment pas que des gens qui pensent que hommes et femmes devraient être égaux et qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Donc c'était aussi, moi en fait au début, c'était même une de mes inquiétudes de ne pas réussir à rassembler des témoignages qui n'allaient pas dans mon sens, comme je rencontrais mes gens, c'est très atroce de le dire comme ça, mais comme je rencontrais mes invités ou mes amis, cette masse d'individus, par des plateformes de voyageurs, je me disais en fait je trouvais que des gens ouverts d'esprit et mon documentaire s'est complètement biaisé, mais du coup grâce à cette rencontre là j'avais enfin un point de vue qui était différent, donc c'était aussi au final c'était quand même aussi super satisfaisant de rencontrer quelqu'un qui a un point de vue hyper patriarcal qui va pas dans mon sens et de quand même pouvoir avoir une discussion avec lui. Ça a duré des heures, hein, ça a duré vraiment longtemps, donc ça a apporté quelque chose de différent, de nouveau.
Mais c'était une discussion ou c'était lui qui te parlait? Parce que toi aussi, tu pouvais donner ton point de vue.
Ouais, tu sais, maintenant, quand tu parles à un homme de 60 ans, très patriarcal, en étant une meuf de 20 ans, il y a quand même beaucoup de chances pour qu'il ne te laisse pas beaucoup la parole.
C'est pas
faux. Puis, en plus, j'avais ce côté où je viens pour faire un documentaire.
Bien
donc,
sûr.
Il était
donc
là, je vais t'apporter ma science.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
C'était normal aussi parce que moi, je ne me fais pas apparaître dans mon documentaire, donc on ne m'entend pas et on ne me voit pas. Et du coup, c'est beaucoup de monologues, hein. Donc, le monsieur, des fois, il disait des choses qui étaient quand même vraiment atroces. Du coup, j'essayais de le corriger.
Tu vois, c'est pareil. Au contraire, pourquoi tu veux corriger un mec qui est là, entre guillemets, pour te donner son point de vue, tu vois? Enfin,
c'est une question hyper intéressante.
Parce que finalement, vouloir le corriger, tu retombes dans le même travers que ce mec-là qui veut, toi, t'apprendre et te corriger, de dire, ma grande, détends-toi, reviens à ta place, tu vois?
En fait, la différence, c'est que ce mec-là, quand je dis le corriger, c'était sur des sujets très précis.
Tu veux punir directement au martinet. Je vais corriger.
Non, mais il me sort des choses qui sont fausses et qui sont graves en plus. Parce qu'à un moment, donc, je lui parle de la question des violences faites aux femmes. Et parce que lui, tout son truc, c'était qu'en fait, les féministes ont vachement victimisé les hommes.
Vachement, c'est l'inverse. On vachement blâmait les hommes.
D'accord, oui. Ça marche mieux,
les féministes n'ont pas arrêté de dire oh, les pauvres hommes.
Mais qu'est-ce qu'on. Oh, on est désolé. Vraiment, tous ces siècles-là, être à la tête des États et des armées, comme ça, ça va être une pression horrible. Oh, mais pauvre.
Donc, les féministes auraient beaucoup blâmé les hommes. Et du coup, lui disait mais attendez, les hommes, non, il faut arrêter de blâmer les hommes. Et du coup, je lui parle des violences faites aux femmes. Et je lui dis bah, du coup, les violences tout court, d'ailleurs, pas seulement faites aux femmes, c'est quand même, je crois que c'est à 98% fait par des hommes. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et il m'a sorti que les chiffres qu'on utilisait pour les violences faites aux femmes, et notamment, tu vois, en Turquie, il y a un gros problème de féminicide. Donc, il disait que tous ces chiffres qu'on sort, et notamment qu'on sort sur la Turquie, sont faux. Et ils sont inventés. Et que c'est juste les... Enfin, je ne sais plus ce qu'il me disait, mais il me disait que c'était les féministes qui inventaient ça pour essayer de renverser le pouvoir et faire culpabiliser les hommes. Et qu'en vrai, il n'y a pas de femmes qui meurent en Turquie. Il n'y a pas de féminicide. C'est un concept qu'il reniait.
Juste que des comas aussi... très longs. Mais au bout de 10 ans, elles se réveillent.
Ça va venir. Non, et puis il me disait aussi que, non mais attendez, les femmes aussi font preuve d'énormément de violence, parce que les féminicides, moi j'y crois pas, par contre je peux vous parler de toutes les fois où les femmes ont tué leurs enfants et tout, enfin bref. En fait, il y a un moment où, tu vois, c'est pour ça que je t'y corrigeais, c'est qu'il y a un moment où il dit quelque chose qui est fondamentalement faux, c'est n'importe qui en Turquie, féministe ou pas féministe, le dira, il y a des féminicides, c'est un fait, il faut aller voir, et bien encore, sûr. Ils sont pas tous comptabilisés. Ah ben mais non. Donc là, j'étais bah, quand même, là, ce que vous dites, c'est faux. Entendons-nous. Mais du coup, il y avait ce truc un peu où, tu
oui,
vois, forcément. Impossibilité du dialogue, quand
mais
même.
Forcément, mais forcément, c'était sûr qu'il y avait. C'est le principe. Alors, je pense que c'est ça, moi, j'ai jamais été reporter, hein, mais c'est ça le plus dur. C'était là pour mettre ton avis de côté, et tu absorbes ce que l'autre a te donné, et puis après, c'est à la fin que tu en feras un petit peu ta tambouille. Mais c'est.
Bah c'est ouais, c'est ça. C'est intéressant, mais c'est vrai que c'est fatigant.
En règle, parce que tu es resté un mois, tu as été dans différents endroits de la Turquie. Tu as été dans des régions un peu plus reculées aussi ou pas?
J'ai été à Konya, en Cappadoce et à Ankara. Ouais. Donc en fait, Konya, c'était censé être la capitale du patriarcat un peu. C'était censé être là où j'allais piocher mes opinions un peu.
Les vrais gars, quoi. Les vrais gars, comme on dit. Et est-ce que bah, même dans ce coin-là, au-delà de la vie et de la mentalité qu'ils ont, quel était le comportement qu'ils avaient avec toi, justement en tant que voyageuse, en tant qu'en plus occidentale?
Bah en fait, les gens, de manière générale, étaient tous hyper bienveillants et avaient vraiment cette volonté d'être hyper sympa dans tous les cas. Et c'est ça qui est drôle, et aussi, c'est ce qui me fait me rendre compte de la complexité de l'être humain, tu vois, qui est que les gens étaient adorables. Et cet homme-là, avec qui vraiment me faisait péter un câble dans ma tête, quand je l'ai interviewé, il était par ailleurs un monsieur, mais vraiment hyper sympathique, qui m'a accueilli chez lui, qui m'a fait à manger, qui était vraiment trop gentil, genre tu restes quand tu veux, t'es la bienvenue. Enfin, moi et mon fils, on t'accueille et tout. Et il était, enfin, c'était vraiment un bonhomme, mais trop charmant. Et par ailleurs, il sortait des propos comme ça. Donc, c'est aussi hyper intéressant de voir qu'il n'y avait pas ce côté, bah, il n'y a que des méchants patriarcaux qui nous veulent du mal et qui sont intrinsèquement violents.
Non, ils mettent une petite tarte dans la gueule de temps en temps quand ils sont énervés par le boulot, c'est tout, quoi.
C'est fou. Enfin, c'était là, les gens sont aussi, et c'est pour ça. Puis il y a toujours ce truc où tu te dis, les voisins sont toujours choqués d'apprendre que leur voisin était criminel ou violait sa femme et tout. Enfin, t'as vraiment ce truc où les gens sont capables, par ailleurs, d'être vraiment très sympathiques. Et du coup, en Turquie, les gens sont juste. Enfin, il y a un truc culturel. Franchement, je pense que les gens sont fondamentalement sympathiques vraiment partout. Mais en Turquie, il y a ce level-là qui est quand même au-dessus.
Ah ouais.
Où ils étaient vraiment hyper bienveillants, hyper accueillants. Enfin, on m'a emmené faire plein de choses partout. On m'a cuisiné pour moi, on m'a accueilli. Donc, j'ai passé les 30 jours en couchsurfing.
Je vais creuser aussi ce sujet parce que je pense qu'il y a plein de femmes qui se posent la question. J'essaie de me mettre dans la peau. Tu vois, on y est dedans. J'essaie de me mettre dans la peau d'une femme. Voilà. Voilà, pour un petit peu
c'est bien,
sujet.
C'est bien, Alex.
Et voilà, j'essaye. Hein, je suis quand même d'une autre génération. Mais les valeurs qu'on m'a inculquées m'invitent à le faire naturellement. Justement, est-ce qu'on on t'a toujours aidé et il n'y a jamais eu, on va dire, tu sais, d'insistance ou on n'a jamais essayé de vouloir plus ou tu sais, des avances sexuelles, des avances de charme, des situations un peu genre, hey, viens, je vais te faire à manger, viens, je vais t'emmener derrière la montagne faire une petite balade ou pas du tout?
Question intéressante aussi, ça m'est arrivé une fois et c'était même pas à travers couchsurfing, c'était à travers l'ami d'une amie, donc c'était encore plus étrange. J'avais une amie que j'avais rencontrée en voyage il y a très longtemps en Angleterre, qui avait un ami turc, puisqu'elle avait vécu en Turquie. Et cet ami-là, en fait, c'était un mec, c'était hyper étrange cette interaction qu'on a eue, mais si tu veux, on était censé passer une journée ensemble, enfin en fait deux journées ensemble, deux journées, une nuit, puisqu'il m'avait dit, écoute, on peut aller dans un endroit au nord de la Turquie, il avait une maison de famille, et on peut aller là-bas. Si tu veux, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on va chez moi, on fait l'interview, et après, si tu veux, on va là-bas. Et moi, j'étais là, OK, parce que c'était, il y avait des interviews, tout ça, et puis il y avait aussi la volonté de découvrir la Turquie, tu vois, en termes de voyager et d'en prendre plein les yeux. Donc, je trouvais ça cool d'aller au nord. Et ce gars-là, en fait, si tu veux, déjà, il avait une attitude où il est venu me chercher à Istanbul parce que sa maison était légèrement en dehors d'Istanbul. Et en voiture, déjà, il était vraiment en mode, ah, tu vois, la masculinité, ça serait conduire comme ça, et puis parler comme ça. Et du coup, en fait, il adoptait une attitude ultra masculine, mais masculine toxique. Et en mode, ah, mais t'inquiète, moi, je prends du recul, ça, c'est pas moi, mais je te montre ce que serait la masculinité traditionnelle. Et du coup, c'était un personnage imbuvable, déjà, puisqu'il était vraiment en train de récupérer ce rôle. Et donc, bon, soit ça passe, et puis on fait l'interview. Et en fait, même avant l'interview, il était vraiment là, bah, écoute, mets-toi à l'aise. Ben, vraiment, si l'interview, veux, t'inquiète pas.
Pour l'interview, il n'y a pas de problème.
Non, mais
quoi.
C'était un peu, voilà, si tu veux, l'interview, c'est pas très. C'est pas, c'est, il diminue un peu la valeur de l'interview. Il était là, ah oui, mais ce qui est surtout important, c'est après, ce qu'on peut faire et tout. Et moi, j'avais déjà senti que c'était pas un personnage avec qui j'allais m'entendre particulièrement bien. On a fait l'interview. Et il était, c'était juste, tu vois, il y avait plein de petits gestes qu'il avait, ou plein de, à un moment, il me parle de je sais plus quoi, enfin, d'un truc qu'il trouvait beau, d'un reflet ou je sais pas quoi. Et il était là, mais viens, rapproche-toi, je vais te montrer et tout. Et moi, je connais un peu ce genre d'attitude, du coup, j'étais là, non, je vais pas me rapprocher, parce que je veux pas que t'aies d'idées mal placées. Et il était là, oh là là, mais c'est fou, t'as vraiment beaucoup trop de, comme il disait, t'as beaucoup trop de défense autour de toi. Pourquoi t'as, à chaque fois que je sors une phrase, j'ai l'impression que tu sors tous tes guns. J'étais là, bah, écoute, tu me mets mal à l'aise, en fait. C'est, il y avait ce truc où je lui avais dit dès le début, on fait une interview, et si tu veux, on va dans ta maison de famille, en tout bien, tout d'honneur, en tant qu'ami, je ne cherche rien d'autre. Genre, en fait, il y avait ce truc aussi en Turquie où je partais pas de zéro. Je disais toujours aux gens qui m'accueillaient, surtout si c'était des hommes, il se passera rien. On est vraiment, c'est amis, au plus. Et du coup, il savait ça.
Tu te baquais, hein.
Ouais, j'étais. En fait, c'est pour ça. Donc, mon point de vue est peut-être un peu biaisé dans le sens où, dès le départ, je disais, il se passera rien. Ben, et ce mec-là, ça a été le seul qui n'a pas compris a priori, qui était vraiment, enfin, qui essayait d'insister. Et puis, à un moment, il m'a dit, enfin, on a fait l'interview du coup. Puis, il m'a parlé de la maison de vacances où on aurait pu aller. Il était là, ouais, écoute, si on va là-bas, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va chercher à manger, on va là-bas, on se prend une bouteille de vin, et puis après, ce qui arrivera, arrivera. Et moi, j'étais là, mais en fait, ça fait à peu près 30 fois que je t'ai dit qu'on n'allait pas coucher ensemble. Donc, arrête. En plus, il m'énervait beaucoup parce qu'il parlait par allusion, il parlait par sous-entendu. J'étais là, soyons très clairs. Tu veux coucher avec moi et moi, je n'en ai pas
fais...
envie.
Et comment tu fais pour te dépatouiller? Parce que du coup, t'es quand même resté dans la nuit. Tu te sentais pas en insécurité?
Non, je suis partie. Okay. Ouais, je suis partie parce que je lui ai dit, bah, écoute, on n'a pas du tout les mêmes intentions.
Et comment tu fais dans ces cas-là? Tu prends le premier hôtel venu, parce que j'imagine que t'es là, c'était pas tes plans. Putain, fais chier, quoi, ça remet tout en question.
Ouais, c'est un peu chiant sur le moment. Là, c'est
la
bombe.
30 kilos dans la main, quand même, la valise. C'est pas.
Non, t'es fou, je la trimballais pas à chaque fois, ma valise. Okay. Ma valise, je l'ai laissée chez le premier homme chez qui j'ai dormi. Yaman, qui était un très bon ami d'ailleurs. Je l'ai laissé la valise chez lui et après, j'avais juste mon sac à dos. Non, heureusement, okay. T'imagines, toi. Parce qu'en fait, je dormais, je changeais de. C'est pas, je te l'ai pas dit, c'est pour ça, mais je changeais d'habitat tous les 3-4 jours à peu près pour essayer de rencontrer plein de gens. Donc, ça aurait été complexe avec la valise de 30 kilos.
Allez,
mais du coup, ouais,
partait.
J'ai pris. C'est ça. Allez, Lucie, encore un mois à tenir. Non, j'ai pris un hôtel et ça a été la seule nuit d'ailleurs de mon séjour où j'ai pris un hôtel parce que j'étais fatiguée aussi. Ça avait été intense. Et c'est vrai que même si tous les hommes n'ont pas eu ce comportement-là, il y avait beaucoup de tu dois expliquer quand même aux gens que tu ne veux rien avec eux. Enfin, je sais qu'il y avait un mec aussi qui était par ailleurs encore une fois très sympathique et qui m'a accueilli 4 jours chez lui, qui m'avait dit ah ouais. Parce que je ne porte pas de soutien-gorge, il m'avait dit, j'ai remarqué que tu ne portes pas de soutien-gorge. Alors, et puis, il avait glissé ça de manière un peu... Il avait fait un virage pour me dire, j'ai remarqué que les hommes te regardent beaucoup parce que tu ne portes pas de soutien-gorge. Personnellement, je trouve ça très beau, très séduisant. Et j'étais là, OK, on va s'arrêter là tout de suite, vraiment. Mais du coup, c'était quand même de l'énergie, mais de rien. Parce que bon, puis tu filmes un documentaire sur le patriarcat dans n'importe quel endroit du monde, ça ne va pas être satisfaisant si tu veux une société vraiment égalitaire et féministe. Globalement partout ça va être un peu décevant les réponses que tu auras, donc c'était beaucoup d'énergie, donc ce soir-là l'hôtel était bien tombé aussi.
Ouais, c'est intéressant. Et au final la Turquie, comment, quand tu dis tu l'as vécu, ils étaient accueillants, est-ce que tu as des anecdotes comme ça où justement tu as été d'un moment de partage qui a été beau, où
ouais,
tu as été aidé, ou enfin je sais pas si tu en as une en tête que tu peux nous partager?
Bah il y avait en fait, tout le côté accueillant, ça venait couchsurfing, ça venait vraiment avec un package immense en Turquie où c'était pas juste ça. Littéralement, on t'offre le canapé et dors là. On te disait, bah écoute, bah en fait, si tu veux, le premier soir, Je devais rencontrer un monsieur que j'avais rencontré sur Couchsurfing, qui était là, écoute, moi, je peux parler de la masculinité, si tu veux. Donc, le premier soir, non, c'était le deuxième soir, du coup, le deuxième soir, on va manger au restaurant, on parle de ça, et puis on parle de mon projet de documentaire. Il me dit, écoute, moi, je n'ai pas envie d'être filmée ou d'être enregistrée à l'audio. Par contre, j'ai tel ami qui pourrait en parler. Donc là, on est au restaurant, il appelle son ami, il dit, écoute, j'ai une amie qui veut faire un documentaire, tu ne voudrais pas venir et en parler? Et le mec est là, OK, pas de souci. Donc, il arrive, il vient, on a une discussion hyper intéressante avec cet homme-là. Cet homme-là qui ensuite me dit, mais ma femme serait hyper intéressée pour en parler. Ah. Sa femme est venue, puis on en a parlé, c'était hyper intéressant également. Et après, donc, le premier homme à l'origine que j'avais rencontré au restaurant m'a dit, mais écoute, j'ai tel ami là-bas dans Istanbul qui a une bijouterie, qui est aussi qui a une masculinité un peu différente, un peu divergente par rapport à la norme. Viens, on va lui parler à lui. Et du coup, il prend la voiture, il m'emmène. Et en plus, c'était magnifique parce que c'était mon deuxième soir à Istanbul, donc je connaissais encore rien d'Istanbul. Et il y avait ce côté où t'as toute la ville, enfin, c'est un peu vallonné, donc tu voyais toute la vue de la ville, c'est orange, ça se reflète sur le Bosphore, c'est vraiment sublime, t'as toutes les mosquées illuminées. Et j'étais là dans la voiture de ce mec-là que j'avais rencontré il y a 2 heures, qui m'avait déjà fait interviewer 2 personnes, et qui était là, on va aller rencontrer cet homme qui est vraiment sympathique aussi, on est allé le rencontrer, donc il a fermé sa bijouterie pour qu'on puisse faire l'interview dans sa bijouterie qui était sublime en plus, c'était des bijoux traditionnels d'Anatolie, on parle, et pareil, interview hyper satisfaisante aussi. Et tous ces gens-là étaient juste là, ça leur paraissait très naturel de m'aider dans mon projet. Et ça a toujours été ça, en fait, la Turquie. Ça a été, j'avais un projet, puis tu sais, j'ai aucun crédit. Enfin, je ne suis pas documentariste, moi, je suis juste une étudiante de 20 piges. À l'époque, je n'ai jamais fait de documentaire. Je voulais juste essayer, parce que je regarde et je trouvais ça rigolo d'essayer. Bien sûr. Les gens étaient là, OK, bah, tu fais un documentaire, on va t'aider, il n'y a aucun souci. Et du coup, ils m'ont fait rencontrer plein de gens. Ils m'ont invité dans sa bijouterie, il a donné l'interview. Enfin, c'était hyper intéressant. Et les gens étaient toujours comme ça. C'était pas seulement, bah, écoute, ton projet m'intéresse, je veux bien participer. C'était là, laisse-moi essayer de maximiser les manières dont je pourrais t'aider.
Je vais t'éclater.
C'est vraiment hyper charmant.
Je vais t'éclater.
Je vais te régaler.
c'est vraiment incroyable, je trouve. Tu vois, la Turquie, je connais pas encore et j'adore, tu vois, avoir des témoignages de gens qui en viennent. D'ailleurs, un truc tout bête, on entend beaucoup en ce moment, ça fait 2-3 ans que la situation politique s'est quand même bien dégradée.
Ouais.
Et que malheureusement ça vient de plus en plus radical, justement.
Ouais, ça c'est vraiment triste.
Est-ce que tu l'as senti aussi ou pas?
Est-ce que je l'ai senti.
Le port du voile est devenu obligatoire en Turquie ou pas?
Non, pas du tout. Non, c'est pas l'Iran, heureusement, mais en fait ça s'est un peu plus démocratisé dans le sens où moi je l'ai senti dans les conversations que j'avais avec les gens. Parce que du coup, fatalement, ce qui est aussi hyper intéressant avec Ezelija, c'est que tu viens, t'as un sujet duquel tu veux parler. Mais du coup, ça emmène les gens à te parler de sujets hyper profonds dès le début,
bien
en fait.
Sûr,
tu passes tous les blabla. Et du coup, les gens parlaient beaucoup de la politique de la Turquie et de l'évolution que ça a eu, parce qu'en fait, ça rétrograde quand même vachement ces dernières années avec l'AKP au pouvoir. Carrément. Et du coup, dans les conversations que tu avais avec les gens, où ils parlaient de comment dans les années 90, c'était l'inverse, en fait, si tu veux. Il y avait vraiment une sorte de... Ça commençait à se démocratiser beaucoup, même d'ailleurs, parce qu'on parlait beaucoup des conditions LGBT. Même les conditions LGBT, dans les années 90, ça se démocratisait beaucoup. La présence des femmes en société se faisait de plus en plus forte. Et il y avait une sorte de sentiment de liberté qui allait jusqu'à ce qu'il y ait un parti de gauche au pouvoir. Et en fait, moi, les gens que je côtoyais, qui étaient souvent de gauche, avaient un peu voyaient ça comme l'apogée de la Turquie. Puis me disaient, en fait, l'erreur de ce parti de gauche a été de bannir le voile des universités. En fait, ils ont tellement forcé le truc que du coup, il y a toute une partie de la population, parce que c'est quand même une démarche questionnable quand tu as toute une partie assez importante de ta population qui est musulmane, donc qui, si elle est féminine, va porter le voile, et qui, du coup, par ça, parce que c'est quand même bizarre de demander aux gens de remettre en question leur foi ou de faire quelque chose qui pour eux est immoral ou quoi, tu leur interdis les bancs de l'université en fait en faisant ça.
Bien sûr.
Et du coup, cette démarche-là a un peu mené à sa perte ce parti. Et un peu, c'est, bien sûr, il y a plein d'autres facteurs, il y en a vraiment moins mille, et notamment économiquement, ça n'allait pas fort. Et du coup, ça a amené une certaine partie de la population à se radicaliser un peu plus, et l'AKP en a profité. Et maintenant, il y a un peu, c'est toujours plus, tu sais, il y a Hagia Sophia qui est un musée fantastique, qui est redevenu une mosquée. Il y a toujours l'AKP, maintenant, c'est toujours plus dans l'idée d'un État musulman.
Enfin, l'église Sainte-Sophiane, du coup, n'est plus une église, n'est plus un lieu, mais c'est redevenu la mosquée?
Ouais, bah parce qu'en fait, c'était pas une église non plus, c'était juste un musée qui expliquait, bah écoute, ce lieu a été une mosquée, ce lieu a été une église, ça a accueilli plein de religions, ça a vu 3 empires différents succéder, et maintenant c'est un musée qui offre du coup savoir apporter de tous, et c'était vraiment magnifique. Parce que je suis allée à Hagia Sophia une fois, du coup, et j'entendais une femme qui en parlait parce qu'elle était française, et elle parlait de comment c'était Hagia Sophia il y a 20 ans. Elle avait vécu en Turquie, genre, super longtemps. Et elle expliquait, en fait, c'était vraiment un musée, c'était magnifique, tu pouvais aller en haut, tu pouvais accéder à toutes les parties du musée, et il y avait toute l'explication, puisque donc ça a vu tous les empires se succéder. Enfin, c'est un lieu qui, historiquement, est hyper riche. C'est en 2016, je crois, si je dis pas de bêtises, que l'AKP et Erdogan ont décidé d'en faire une mosquée. Et du coup, bah, c'est une mosquée. Donc, fatalement, si tu es une femme, tu te couvres la tête. Tu n'as plus du tout toutes les explications. C'est uniquement un lieu de culte. Et du coup, tu ne peux pas aller partout. Tu ne peux pas aller.
Mais en plus, tu peux y aller ou pas ? Parce que moi, il y a un truc qui m'avait, que j'avais beaucoup apprécié, en tout cas, en Turquie. C'était de pouvoir justement visiter les mosquées. Tu pouvais, toi,
tu peux y aller tout à fait.
En tant que non-musulman, tu peux rentrer dans les. Non, mais ce qui n'est pas le cas, ce qui est quasiment le cas nulle part ailleurs. Je dis pas de bêtises.
Ça, je savais pas du tout, tu vois.
Normalement, tu ne peux pas, c'est un lieu de culte. Et si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas rentrer dans le lieu de culte. Moi, je sais je crois que si je dis pas de bêtises au Maroc, je voudrais pas dire de conneries, mais à part peut-être la mosquée de Rabat qui est un peu une mosquée technologiquement incroyable parce que le toit s'ouvre, etc., que tu peux la visiter. Normalement, tu ne peux pas, si je dis pas de bêtises. Est-ce que j'avais adoré là-bas?
Ah, je sais pas.
Si tu fais pas de bruit, tu te mets sur le côté, etc., tu peux. Moi, j'avais visité là-bas, Sainte-Sophie, j'avais visité la mosquée bleue là où j'ai découvert la puissance des mosquées, quoi. Les mosquées.
La mosquée bleue, j'aurais trop aimé la voir, elle était en travaux. Je ne peux plus la voir.
Mais tu vois, les églises, j'y vais parce que j'aime bien voir ce qu'il y a dedans. Et j'aime ce côté aussi, tu sais, calme, apaisant. Ça reste un lieu de culte. Mais c'est très, très froid, les églises, quand même. Hein, puis vraiment froid, hein, tu t'écailles. Et en plus, c'est que du carrelage, c'est que la pierre. Les mosquées, en tout cas, les peu que j'ai pu voir, parce que j'en avais réussi à en avoir d'autres aussi, même en Jordanie, parce que j'ai acheté avec des amis, etc. T'as la moquette par terre pour pouvoir justement comme un tapis de prière, c'est chaleureux, t'as les petites lumières, et puis t'as toujours ce côté apaisant. Non, les vitraux, c'était incroyable. Mais je sais pas, du coup, je sais pas si tu ne peux plus les visiter ou pas, mais apparemment
tu peux. Bah, franchement, je connais pas de pays où tu peux pas visiter les mosquées, mais je sais pas, franchement,
pour tous mes potes musulmans qui m'écoutent, je me dis, t'es bien sûr que tu peux venir, mais il me semblait que non.
Bah, Hagia Sophia ou la mosquée bleue, enfin toutes les mosquées de manière générale, tu peux y aller, à condition que si t'es une femme, tu te couvres la tête, du coup.
Ouais, mais c'est comme quand tu vas dans une église, tu te couvres les épaules, chacun ses règles. On va arriver sur la fin de ce podcast quand même, qui est quand même bien intense et avec des plein de nouvelles. J'adore en fait parce que tu m'apprends plein de choses. Je ne connais pas la Turquie et je ne connaissais pas cette bourse. Et je pense que les 16-20 ans qui doivent ronger leurs freins de pouvoir se rebarrer aussi.
Il faut qu'il y ait.
Avec un petit billet de 900 balles, en vrai, tu peux largement partir un mois si tu... Non, mais c'est intéressant
de
te dire.
Bah, en fait, ouais, le truc, c'est que tu dois faire ton budget et du coup, en fonction de ce dont tu as besoin, là, tu auras la bourse qui sera adaptée. C'est toi qui demandes combien tu veux exactement. Moi, j'ai demandé 900 parce que j'avais tout le matériel de vidéo et tout à acheter. Mais des fois, les gens ont des visas. Moi, j'avais pas de visa, mais les gens ont des visas ou des billets d'avion vraiment expensés, très chers.
Mais tout de suite, quand t'enlèves l'hébergement qui est souvent une fois sur place, le plus gros corps de dépenses, tu sais quoi, Couchsurfing, tu seras pas tout seul, tu seras chez des gens et tu devras faire entre guillemets l'effort de parler avec eux, d'échanger, de sociabiliser. Mais c'est ça en fait, tu vas lever la tête de ton téléphone et tu vas voir ce qui se passe en vrai, tu vas voir ce qui se passe. Justement, pour terminer ce podcast, on va partir sur les deux questions traditionnelles. C'est si je te passe les clés de la DeLorean pour revivre un seul moment de ce mois de voyage incroyable en Turquie, dont tu n'as pas parlé, ce serait lequel ?
ça vient tout de suite en tête. J'avais rencontré un ami vraiment sympathique qui s'appelait Ozan, qui était gay. Et du coup, on avait une conversation hyper intéressante sur la condition des hommes homosexuels en Turquie. Ouais. Et en fait, je l'ai vu une première fois et on a parlé de ça. Et la deuxième fois, je l'ai revu, mais vraiment en tant qu'ami presque. C'était la veille de l'interview parce qu'il allait m'accueillir chez lui. Ouais. Et il m'a dit, écoute, avant qu'on ait chez moi, viens, on va se prendre un balik ekmek, et c'est les sandwichs au poisson, tu sais, qu'il y a sur les rives du Bosphore, en fait.
Okay.
Les gens, enfin, c'est magnifique parce que toujours au moment du coucher de soleil, tu vois des gens dans leur bateau qui pêchent le poisson, qui le font griller, qui les mettent entre deux tranches de pain avec des oignons, de la salade et des tomates, et qui t'apportent ça. Donc, c'est un balik ekmek. Il avait un très bon spot qu'il aimait beaucoup, qui était une sorte de petite maisonnette bleue, trop jolie, bleue et blanche, où il y avait des chats partout autour parce que du coup, on les nourrissait. Il y avait plein de chats.
Mais c'est trop bien, ça aussi, Istanbul, c'est qu'il y a des chiens et des chats partout. Du coup, il y avait plein de chats qui venaient manger et on voyait, tu vois, les mouettes, les oiseaux et tout. Et on parlait, on avait notre petit Bali Cake Mec et notre thé, parce qu'aussi, ça, j'en ai bu des litres et des litres de thé à Istanbul. Et c'était mais magnifique. Et je me rappelle que c'est le moment où, en fait, on avait aussi vu sur un des ponts et on voyait le coucher de soleil qui descendait, et on avait projeté d'aller voir le coucher de soleil sur le pont. Et je me suis dit, mais c'est, enfin, c'était un peu l'apogée de mon voyage, dans le sens où j'adorais ce mec avec qui j'avais une conversation super intéressante. La vue était magnifique. J'en ai jamais pris plein les yeux autant qu'à Istanbul. Et je me suis dit, mais c'est l'apogée, c'est la meilleure vie que je peux mener.
Best life. Génial.
C'est trop bien. Oh, ouais.
Tu sais que j'y étais avec les mouettes comme ça, mon petit sandwich dans la main. J'étais avec toi autour du Bosphore, là, enfin au bord
c'est
du Bosphore.
C'est trop bien. Mais tout le monde allait à Istanbul, vraiment.
Allez, Istanbul. Taksim, je me souviens. Taksim.
Oh, Taksim.
Quartier Taksim. Le soir, là, sur les bars à chicha. Parce que c'est des bars à thé, en fait, où tout le monde fume la chicha. C'est pas des bars
mais
à chicha.
C'est ça. C'est globalement des bars à chicha.
Oh, l'ensemble. J'ai fumé une chicha. Mais moi, je fume pas. Donc, si tu veux, je tirais là-dessus comme si j'étais un mec du coin qui était là, qui venait tous les dimanches, tu vois. Ouais, elle m'a fait tourner. Mais c'était puissant parce qu'ils ils te mettent des morceaux de charbon, mais de feu de bois, quoi. Et c'est et t'as tout le monde. Et t'as toutes les familles, t'as les femmes avec les enfants qui sont là, t'as boit le thé et tout.
C'est mais trop charmant, Taksim.
J'ai tellement tourné la tête. J'étais là, pareil, je dis, ouais, je suis à Best Life. Wouh! Tu vois,
ouais, c'est la meilleure vie. Istanbul, chaque quartier, et Taksim, c'est un de mes quartiers préférés, mais chaque quartier est tellement différent et apporte tellement de choses. Ouais. Istanbul, c'est sincèrement, je pense qu'objectivement, c'est la meilleure ville du monde. J'en ai visité très peu.
Ça
donc
se sent
aucune,
vrai objectif,
aucune objectivité.
Très, très objectif,
exactement.
Ouais. Si tu devais résumer ce voyage en une punchline, une citation ou un proverbe, ce serait lequel?
Alors, c'est une bonne question. J'ai vu il n'y a pas longtemps, bah, c'était sur un blog de voyage, c'est pas de moi, hein. mais j'ai vu et je trouve que ça résume beaucoup l'esprit de Zelidja. C'est pas une citation, c'est un poème.
Wow, si tu arrives à lâcher un poème, c'est une première.
Il est très court.
Vas-y, franchement,
c'est
incroyable.
Un poème d'Apollinaire que j'ai trouvé magnifique qui s'appelle « Venez jusqu'au bord ». Et donc, ça va comme suit. « Venez jusqu'au bord, nous ne pouvons pas, nous avons peur. Venez jusqu'au bord, nous ne pouvons pas, nous allons trouver. » Venez jusqu'au bord, et ils y sont allés, il les a poussés, et ils se sont envolés. Et je le trouve trop beau, parce que c'est tout l'esprit de t'as peur parce que ce que tu vois au bord est infini, c'est tout un champ de possibilités immense. Mais si on te pousse, et c'est un peu ce que fait Zelidja au final avec les gens de 16-20 ans, si on te pousse, tu vas prendre ton envol, et tu vas te rendre compte à quel point c'est beaucoup plus intense que ce que tu vivais quand tu restais très très loin du bord.
Lucie, c'est génial. Cette personne n'avait sorti un poème. Et poème, je peux vous dire, elle l'a récité de tête. Elle l'a pas genre sous les yeux, incroyable.
Oh, il est très facile à retenir, mais
ouais,
j'ai trouvé
alors,
magnifique.
Dans une société aujourd'hui, notre cerveau est dans notre téléphone, dans notre ordinateur. Bravo d'avoir eu cette mémoire. Parce que, comme tu dis, la symbolique est magnifique. Envole-toi, pousse, ça fait peur, mais de toute façon, tu vas te démerder pour apprendre à voler.
Oui, tu t'envoleras de toute façon.
Pendant
exactement.
La chute.
C'est un peu la morale de cette histoire.
Lucie,
exactement.
Je te remercie beaucoup pour ce partage. Merci d'avoir voulu partager cette bourse qui est très peu connue et j'espère que ça va en inspirer plus d'une et plus d'un. J'espère que ça permettra à certains et certaines aussi de partir voyager, faire leur premier voyage en solo et que ça les aidera le petit coup de pouce financier et puis structurel et administratif parce que l'air de rien, on est encadré, c'est bien aussi. Donc ça, c'est trop cool. Évidemment, comme d'habitude, les liens seront dans la description du podcast pour ceux qui veulent directement cliquer sur le bon lien.
Oui, ils ont le site, tout ça, plein de ressources pour les gens qui se posent des questions.
Exactement, on va tout mettre dans la description du podcast. Et écoute, moi, je te dis merci beaucoup, je te dis à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt, salut.
Ciao.